France Culture.
Le journal est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Il doit désormais comparaître pour narcoterrorisme aux États-Unis. Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro, enlevé hier par les forces américaines, est désormais derrière les barreaux d'une prison de Brooklyn à New York, où il pourrait être jugé dans les prochains jours. Au Venezuela, c'est désormais la vice-présidente Delcy Rodriguez qui prend temporairement la succession de Nicolas Maduro. Elle assure que son pays ne sera jamais la colonie d'une autre nation. Alors que Donald Trump menace déjà Cuba d'une opération similaire, est-ce le retour d'un impérialisme américain sans limite et de l'unilatéralisme? On en parle avec notre invité, le professeur émérite et spécialiste du droit international Serge Sûr. Enfin, nous reviendrons en France sur une exposition qui met en avant un autre temps, celui des belles endormies et des représentations artistiques problématiques des femmes inanimées et soumises au désir masculin. De la résidence présidentielle à la prison, Nicolas Maduro vient donc de passer une première nuit derrière les barreaux à New York. Le président vénézuélien déchu et sa femme, Cilia Flores, capturés par les forces spéciales américaines hier lors d'une opération au Venezuela, ont été exfiltrés par avion vers les États-Unis. Après un voyage à bord d'un hélicoptère et d'un navire américain, c'est donc un président déchu, menotté et en claquette qui est apparu sur les images diffusées par la Maison Blanche lors de l'arrivée de Nicolas Maduro à Manhattan avant d'être incarcéré dans une prison fédérale de Brooklyn. Et Franck Madvon, c'est désormais un long processus judiciaire qui commence.
Nicolas Maduro menotté, en sandales, escorté par des agents américains, c'est l'une des images du jour aux États-Unis. Le président vénézuélien déchu a tenu à garder la tête haute, on l'entend souhaiter bonne année en anglais, mais il est donc tombé ce 3 janvier, capturé par Washington, arrêté dans son propre pays à la suite d'une audacieuse opération américaine. En moins de 24 heures, lui et son épouse, Cilia Flores, ont pu être conduits à New York, où ils sont arrivés en début de soirée à bord d'un avion du ministère de la Justice. Le couple pourrait comparaître dès cette semaine pour narcoterrorisme et trafic de cocaïne. Une nouvelle mise en accusation a été rédigée qui repose sur celle dévoilée en 2020 déjà contre Nicolas Maduro. Cette fois, sa femme est donc concernée. Leur fils et trois autres membres du régime sont aussi inculpés. En résumé, est-il écrit, un trafic de drogue à très grande échelle a offert à Maduro et à sa famille pouvoir et richesse. Il est probable que le président déchu du Venezuela plaide non coupable.
Franck Madvon à Washington pour France Culture. Et si les États-Unis entendent diriger le Venezuela jusqu'à une transition politique sûre, affirme Donald Trump, qui entend exploiter au passage les vastes réserves pétrolières du pays, qui pourra assurer cette transition politique sur place au Venezuela? Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France. Alors ce matin, la Cour suprême vénézuélienne a confié le pouvoir à la vice-présidente.
Oui, Delcy Rodriguez, 56 ans, une fidèle de Nicolas Maduro. Elle a successivement été ministre de l'Information, des Affaires étrangères, présidente de l'Assemblée constituante, assemblée qui a élargi les pouvoirs du président vénézuélien. Et depuis 8 ans, elle est vice-présidente, chargée en particulier ces derniers mois de l'économie et du pétrole. Alors Donald Trump, qui dit vouloir diriger le Venezuela, va-t-il s'accommoder de cette fidèle de Nicolas Maduro? Hier, le président américain lui a tendu la main. Elle est prête à coopérer avec les États-Unis, a assuré Donald Trump, une affirmation qui tranche avec les mots employés par Delcy Rodriguez hier soir. Le Venezuela ne sera la colonie de personne. Elle a aussi estimé que Nicolas Maduro était, je cite, l'unique président du Venezuela. La Cour suprême du pays, d'ailleurs, ne considère pas que Nicolas Maduro est définitivement absent. Dans le cas contraire, cela aurait déclenché une élection présidentielle anticipée sous 30 jours.
Alors, faute de faire plier la nouvelle présidente par intérim, les États-Unis pourraient soutenir un membre de l'opposition vénézuélienne, Frédéric.
Les regards se sont tournés vers la récente prix Nobel de la paix, l'opposante Maria Corina Machado, qui vit cachée au Venezuela. Elle en est sortie clandestinement il y a 3 semaines pour recevoir son prix Nobel décerné à Oslo, en Norvège. Mais hier soir, Donald Trump a balayé cette hypothèse avec des mots particulièrement durs. Il lui serait très difficile d'être au pouvoir. Elle n'a ni respect ni soutien au sein de son pays. Alors Maria Corina Machado, elle-même, ne revendique pas le pouvoir. Elle soutient une autre figure de l'opposition, le rival de Nicolas Maduro à la présidentielle de l'an dernier, Edmundo González Urrutia, donné perdant par les chiffres officiels. Il a dénoncé des fraudes massives. Il vit aujourd'hui exilé en Espagne.
Frédéric Seitz pour France Culture. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir demain matin à la demande du Venezuela. Mais la Chine appelle aujourd'hui à la libération immédiate du président vénézuélien, qualifiant l'opération américaine de violation flagrante du droit international. Ce que dénoncent aussi plusieurs dirigeants latino-américains et européens, dont les réactions dès hier ont alterné entre inquiétude, appel à la désescalade et au respect donc du droit international. Mais en France, la réaction d'Emmanuel Macron s'est fait attendre. Le chef de l'État a finalement réagi hier soir par un tweet à la capture de Nicolas Maduro, 10 heures donc après l'attaque américaine. Le président de la République s'est réjoui de voir le peuple vénézuélien débarrassé de la dictature de Nicolas Maduro, a-t-il dit, piétiner la dignité de son propre peuple. Mais aucune référence donc à l'opération américaine menée en dehors de tout cadre légal. Pas de mention non plus de la violation du droit international ou des velléités de Donald Trump de s'emparer des ressources vénézuélienne. Un message qui a donc ulcéré les leaders de la gauche, qui qualifient cette position de honte et accusent Emmanuel Macron de complaisance avec les États-Unis. Car cette intervention américaine au Venezuela, on le rappelle, ne s'inscrit dans aucun cadre légal. Et le président brésilien Lula souligne qu'elle rappelle les pires moments de l'ingérence étrangère en Amérique latine. Celle du temps de la doctrine Monroe, qui il y a plus d'un siècle justifiait l'impérialisme américain sur le continent par la menace des anciens colonisateurs européens. Donald Trump assume d'ailleurs de s'en inspirer, surnomme désormais sa stratégie de sécurité nationale comme le document d'Onro, accolant donc son nom au nom de son lointain prédécesseur. Alors, cette séquence marque-t-elle la fin du respect du droit international par la première puissance mondiale? Ouvre-t-elle une nouvelle phase dans la crise du multilatéralisme? Et que peuvent finalement les institutions international face au droit dont s'arroge Donald Trump? Valentin Gris s'est entretenu avec Serge Sûr, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas, fondateur et directeur du centre Thucydide.
Bonjour Serge Sûr.
Bonjour.
Peut-être une première question historique pour démarrer. Comment est-ce qu'on peut resituer cette intervention américaine au Venezuela? Est-ce qu'il y a une forme de nouveauté ou est-ce que ça s'inscrit dans une doctrine américaine?
Alors écoutez, pas seulement des États-Unis, mais ça a toujours existé. Les enlèvements à l'étranger, je ne remonterai pas jusqu'à l'affaire du duc d'Enghien, mais enfin, Eichmann a été enlevé en Argentine par Israël, sans que ça suscite d'énormes réactions. Le général Noriega, alors là nous sommes avec les États-Unis, a été enlevé au Panama, il était le chef d'État du Panama, il a été enlevé par l'administration Bush père. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des réactions tellement négatives, ou d'ailleurs je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions. C'était un chef d'État en exercice. Et on l'a obligé même de sortir d'une mission diplomatique, ce qui était une atteinte aussi à l'immunité de l'ambassade. Et puis, il y a eu d'autres enlèvements. Par exemple, le colonel Argou a été enlevé en Allemagne par la France du général de Gaulle. Donc, je veux dire, des enlèvements comme ça, on en trouve dans l'histoire depuis quand même pas mal de temps. Et c'est une pratique qui est assez général.
Est-ce qu'il y a des recours au niveau international? Il y a beaucoup de dirigeants hier, notamment européens, qui ont appelé à respecter le droit international. On imagine que l'ONU va se saisir de cette affaire et va probablement proposer une résolution. Est-ce qu'au niveau du droit et du droit international, il y a des recours possibles et des solutions?
Oui, il y a des recours possibles. Par exemple, on pourrait saisir la Cour internationale de justice, mais il faudrait qu'elle soit compétente. Et pour qu'elle soit compétente, il faudrait que les États-Unis acceptent la juridiction, ce qui n'est pas le cas. Et je ne sais même pas d'ailleurs si le Venezuela a accepté de son côté la juridiction de la Cour. Donc là, oublions les recours devant la CIJ. En revanche, le Conseil de sécurité se réunit demain et il sera appelé à se prononcer, mais je doute fort qu'il prenne une position sur le fond, parce qu'il y aura évidemment un veto américain. Et donc, il y aura un certain nombre de déclarations. Ce sont les États individuellement qui peuvent émettre des protestations. Mais ce sont des protestations de principe qui ne sont suivies d'aucune conséquence, d'aucune sorte. Et vous remarquerez qu'ils sont tout de même très prudents. Beaucoup n'ont pas encore réagi. Dans la République en France n'a pas condamné cette intervention. Donc vous voyez la prudence générale.
Que disent justement ces réactions qui ont été assez timides? Et vous parliez de la réaction d'Emmanuel Macron hier qui s'est contenté d'appeler notamment à une transition pacifique. Comment est-ce qu'il faut interpréter ces réactions-là et leur manque de fermeté peut-être? Est-ce qu'il faut voir une crise du multilatéralisme, une peur peut-être de représailles?
Alors la crise du multilatéralisme, elle est déjà ancienne. Hein. elle n'a rien de nouveau et elle se développe sur d'autres terrains, le terrain des traités multilatéraux. Les réactions timides, c'est le fait que, premièrement, beaucoup de personnes ne s'estiment pas concernées. Deuxièmement, Maduro était vraiment quelqu'un de difficilement défendable, dont la position était extrêmement fragile, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. Et puis troisièmement, personne n'a envie d'agacer Trump. Il est dans une situation où il fait une démonstration de force. Bon, on le laisse faire et on attend la suite, parce qu'il n'est pas certain que ça soit suivi par des jours heureux. On ne sait pas ce qui va se passer au Venezuela. On ouvre une séquence dont le résultat est tout à fait imprévisible.
Justement, dans cette séquence, est-ce qu'il ne faut pas craindre des répliques d'un point de vue international? On sait la situation de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, évidemment, de la Chine aussi vis-à-vis de Taïwan et des menaces qui pesaient ces derniers jours avec des opérations de grande ampleur de la part de Pékin. Est-ce qu'il ne faut pas craindre des répliques et de ne pas craindre un effet boule de neige, en fait, et que ce cas américain au Venezuela puisse ouvrir un précédent?
Vous avez tout à fait raison, mais l'effet boule de neige, il existe déjà depuis l'affaire du Kosovo. Affaire du Kosovo en 99, lorsque les pays européens et les États-Unis sont intervenus contre la Serbie pour obtenir l'indépendance du Kosovo, ça s'est fait en dehors des Nations Unies, ça s'est fait en dehors de la charte, c'était formellement une violation du droit international. Et donc, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est au fond la réplique de ce qui s'est passé au Kosovo. Et je ne parle même pas de 2003, où les États-Unis ont envahi l'Irak sans avoir la moindre autorisation et même contre le sentiment de la majorité des pays membres des Nations Unies. Les pays occidentaux ont donné un exemple déjà à ce moment-là, depuis longtemps. Donc on ne peut pas s'étonner ensuite d'être suivi par des pays qui ne sont pas occidentaux.
Serge Sur, professeur émérite à l'université Panthéon Assas, au micro France Culture de Valentin Grille. J'ajoute enfin que le pape Léon XIV appelle ce midi à garantir la souveraineté du Venezuela et le bien-être des Vénézuéliens doit prévaloir donc après la capture de leur président, insiste le souverain pontife. Une nouvelle opération contre le groupe terroriste État islamique menée par la France et le Royaume-Uni la nuit dernière. Des avions britanniques et français ont conjointement frappé une installation de l'EI située au nord de Palmyre, dans le centre syrien. Un site utilisé comme dépôt d'armes et explosifs, affirme le ministère britannique de la Défense. Malgré sa défaite face à la coalition internationale en 2019, des djihadistes de l'État islamique retranchés dans le désert syrien restent actifs et continuent de mener ponctuellement des attaques. On termine ce journal par une exposition au musée Marmottan-Monet où le sommeil est à l'honneur. Baptisé l'Empire du Sommeil, une partie de cette exposition à Paris est consacrée aux belles endormies, ces représentations de femmes souvent dénudées, endormies dans des positions sensuelles et observées par les hommes, des incarnations qui interpelle et crée un certain malaise quelques mois après le procès des viols de Mazan, au cours duquel la culture du viol et notamment le désir des hommes pour les femmes inanimées ont été mis en lumière. Sarvane de Pastre.
Des femmes endormies, exposées au regard et au désir des hommes. Ces scènes sont présentes dès l'Antiquité et la mythologie grecque, explique Sandrine Aragon. Elle est enseignante à Sorbonne Université.
C'est Zeus qui séduit l'Éda endormie, c'est Ariane qui est abandonnée par Thésée. On le retrouve dans les contes de fées. C'est la Belle au bois dormant et le prince qui arrive et qui l'embrasse endormie.
Présentes dans la littérature, dans l'art, dans la musique, toutes ces représentations ont un point commun, selon Sandrine Aragon, leur perspective.
C'est la femme dans sa vulnérabilité, la femme qui est un objet de désir et la femme qui n'est pas dans la réponse, dans l'opposition. Elle est occupée aussi par autre chose, donc l'homme peut avoir envie de s'immiscer dans ses pensées les plus secrètes. Et en fait, il y a toujours cette volonté de pénétrer, d'imposer sa force, en effet, donc c'est un effet de domination.
Ce qu'elle appelle aussi le male gaze, la perspective masculine sur le corps des femmes. Pour autant, estime l'enseignante, ces œuvres ne doivent pas être reléguées, ni même oubliées.
On peut continuer à admirer certains tableaux, hein. Ça n'empêche pas de remettre chacune de ses œuvres dans son contexte de production. Dans chaque époque, il y a eu des personnes qui ont exprimé leur opposition.
Il s'agit donc, selon Sandrine Aragon, de mettre en avant ses opposants de la première heure, souvent des femmes, mais aussi de changer le vocabulaire utilisé pour décrire ces scènes, parler de viols, d'agressions, d'abus. En cela, estime l'universitaire, le mouvement MeToo, mais aussi le procès Mazan ont été de véritables sursauts, avec l'inscription dans la loi de la notion de consentement pour définir le viol.
Servane de Pastre, le temps cet après-midi avec un froid vif et une ambiance bien hivernale. Du Berry au Grand Est, les températures ne dépasseront pas 1 degré et le mercure affichera entre 2 et 5 degrés en général. Sous une petite pluie de la Bretagne au Cotentin et un ciel ensoleillé sur les autres régions. C'est la fin de ce journal préparé avec Brice Garcia et Marie-Claire Oumabadi à la technique.